Et ça continue, je ne serai pas toute seule très longtemps. J'attends Thibaut Temmermann d'une minute à l'autre avec qui nous pourrons parler d'actualité internationale parce qu'il adore la géopolitique, entre autres il en mange. Mais avant, on va regarder la une de la presse et ce qui se cache dans la presse ce matin. Alors, à la une, d'abord, des migrants irakiens entrent au pays par la Montérégie. Depuis un mois, au moins une quinzaine de migrants apparemment irakiens ont traversé illégalement la frontière canado-américaine à pied. C'est ce que racontent des agriculteurs de Dundee qui les ont trouvés sur leur terre. Et là, je vois qu'il y a une dernière heure. Yann Gomeshi plaide non coupable à 5 chefs d'accusation. C'est une dernière heure, ça vient de tomber. L'ex-animateur radio de la CBC, Yann Gomeshi, a plaidé non coupable à 5 chefs d'accusation d'agression sexuelle qui pèsent sur lui. Retour à la une de la presse, harcèlement sexuel, plainte contre Marcel Aubut. Le président du Comité olympique canadien se retire temporairement. Et puis, dans le cahier des affaires, vous savez, l'affaire des ballons dégonflés en football américain, eh bien, un économiste montréalais vole au secours de Brady. La chronique de Vincent Marissal, comme un voile sur la campagne, le niqab colle à Thomas Mulcair jusqu'à Iqaluit, où il est allé faire campagne, monsieur Mulcair. Et puis on nous annonce aussi la chronique de monsieur Yves Boisvert sur la prison pour Lise Thibault. Yves Boisvert, il est très clair, c'est bien fait. Alors, bien fait. Voilà, c'est le titre de la chronique d'Yves Boisvert ce matin qui nous dit « Le juge Carole Saint-Cyr n'est pas tombé dans le panneau de la sensiblerie et c'est une bonne nouvelle. Après des années d'abus de fonds publics et d'abus de confiance, Lise Thibault s'est essayée dans un nouveau genre, l'abus de handicap et de grand âge. » Jouant sur son état de santé fragile, ses 76 ans, sa condition physique, l'ex-reine imaginaire voulait une peine dans la collectivité. Comme selon son avocat, elle est déjà recluse pour éviter de croiser le regard du public, une peine purgée à domicile serait pas de peine du tout. La peine d'un an et demi et plus de 300 000 dollars de remboursement sera donc purgée en prison. Non pas parce qu'elle est en danger public, ni parce qu'elle risque de récidiver ou qu'elle a un lourd passé judiciaire, mais simplement parce que dans ces cas, les tribunaux doivent dire clairement la gravité du geste, le dénoncer. Il nous rappelle, Yves Boisvert, que quand même la femme a détourné au moins 430 000 dollars d'Ottawa et de Québec en dépenses personnelles et qu'elle n'a jamais donné le moindre indice d'une prise de conscience. Il est vrai, dit Boisvert, qu'on a vu bien pire. Il est vrai qu'elle n'a pas tout engrangé, elle a même distribué de l'argent à travers sa fondation. Mais l'opération a duré 10 ans, dit-il, et elle a tout fait pour masquer la vraie nature de ses dépenses. Si on lui refusait des dépenses d'hébergement pour ses filles, elle réécrivait la note de frais et déguisait l'événement. Bref, c'était dans la durée, c'était prémédité et ça émanait d'une personne dont on attend très officiellement une haute moralité. Cette trahison-là est plus grave, dit Boisvert, que celle d'un fraudeur ordinaire. Lise Thibault a plaidé coupable après 33 jours de procès et après 5 ans d'avocasserie pathétique. On ne va quand même pas la féliciter de hisser le drapeau blanc en plein milieu d'un contre-interrogatoire où elle coulait. L'avis d'appel est déjà déposé à ses frais, bien qu'elle ait voulu faire payer ses honoraires par le public. Elle retarde donc encore un peu son entrée en prison, mais avec un jugement aussi bien ficelé. Ses chances sont très minces. Elle aura au moins exposé la vétusté de cette fonction dont elle a avalé près des 2/3 des coûts pour tout le Canada, écrit toujours Boisvert, et à la rapprocher le plus possible de l'insignifiance à défaut de changer de constitution. Elle a aussi exposé la difficulté chronique des tribunaux à rejeter rapidement les requêtes loufoques et dilatoires sous prétexte qu'on a le droit de les présenter. Mais on ne la remercie pas, dit Boisvert, cynique, hein, on le savait déjà. Et puis ce matin, dans la presse aussi, Louise Dubuc nous présente, et c'est dans le cadre du dossier sur les élections fédérales, Louise Dubuc nous présente Marie-Hélène Dubé et ses combats. Cette femme, elle a 44 ans, elle a 2 enfants, elle a 3 cancers à son actif et une maison plus hypothéquée que lorsqu'elle l'a achetée. Madame Dubé, qui habite à Laval, demande que tous les chefs fédéraux en campagne électorale se positionnent par rapport à l'enjeu qui est... Comment peut-on faire lorsqu'on est malade avec 2 enfants? Comment peut-on faire? Comment la société pourrait mieux contribuer envers ces gens-là qu'en se retrouvant à vivre de l'aide sociale? On souligne, or, elle dit que quand il est question de cancer, il n'y a pas que la convalescence qui soit longue. Il y a les résultats des nombreux tests qui ne sont pas instantanés, les traitements à suivre qui ne s'imposent pas d'emblée. Et dans son cas, encore fallait-il que le bon dosage de médicaments soit trouvé. Donc, tout ça a été très, très long. Je vous rappelle qu'elle a été frappée à plusieurs reprises, notamment à 36 ans et plus fort que jamais, avec de multiples atteintes aux ganglions. Et cette femme, à ce moment-là, qui s'est encore une fois retrouvée sur l'aide sociale. Il n'y a pas que le cancer, bien sûr, hein, bien que cela lui ait donné un sérieux coup de payer ses factures d'épicerie et d'Hydro-Québec à même sa marge de crédit. Madame Dubé signale que d'autres personnes sont encore bien plus mal prises qu'elle. Elle est toujours propriétaire, après tout, et elle est aujourd'hui professeure au Cégep, et le cancer, pour l'instant, est maîtrisé depuis 8 ans. Elle dit « Moi, j'avais ma maison que j'ai pu réhypothéquer, mais que font les autres ?» Une femme m'a raconté que pendant tout un été, elle a dû vivre sous une tente avec son fils dans un terrain de camping. Et puis, il n'y a pas que le cancer. Des personnes qui ont eu un accident ou d'autres qui ont des problèmes de santé très rares ont tout autant besoin de temps que moi. Comme Madame Dubé, la coalition Priorité Cancer croit aussi qu'il est temps que les choses changent, dit Louise Dubuc, et qu'il est anormal que le régime soit tellement plus généreux à l'égard de ceux qui perdent leur emploi que pour ceux qui doivent s'en absenter pour des raisons de santé. Rehausser le soutien financier apporté aux personnes qui doivent lutter contre une maladie grave telle que le cancer, ce n'est pas de la charité, croit Nathalie Rodrigue, présidente de la coalition Priorité Cancer. C'est un juste retour des contributions à l'assurance-emploi, versées en plus par ces mêmes personnes. Selon l'Agence de la santé publique du Canada, 2 Canadiens sur 5 recevront un diagnostic de cancer au cours de leur vie. Généralement, François Cardinal signe des chroniques assez portées sur Montréal, mais cette fois-ci, c'est une chronique régionale. Il dit « Charlevoix est à mes yeux la plus belle région du Québec. C'est un joyau sans pareil, des paysages vallonnés et forestiers qui laissent sans voix. Mais se rendre là à partir de Montréal, aïe aïe, dit-il, que d'horreur en chemin vers la beauté. Il pense à l'OVNI qui sert de magasin aux ameublements Tanguay à Québec, au boulevard Sainte-Anne qui fait concurrence au boulevard Taschereau, au centre d'achat de la Malbaie avec son impayable Dolorama sur le fleuve. Et puis, il dit alors que cette route est parsemée de trésors, mais combien de projets et d'interventions ont abîmé, morcelé, gâché ce territoire. Et c'est ce qu'ont dénoncé mardi les différentes organisations liées à l'aménagement du territoire réunies pour une grande déclaration commune. Elles n'ont pas dénoncé les horreurs que l'on croise en chemin vers la Malbaie, bien sûr, mais les erreurs urbanistiques en général, un peu partout au Québec, en ville, comme en région. Ça va faire, dit-il, le développement anarchique du territoire, le bricolage à la pièce des villes, les constructions anarchiques. Ça va faire la dilapidation d'un capital constitué par des siècles d'occupation humaine, pour reprendre les mots de Gérard Baudet dans son excellent livre « Le pays réel sacrifié ». Il faut un plan, il faut une vision, des principes, des cibles, des objectifs. Bref, il faut une politique nationale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, écrit ce matin dans la presse François Cardinal. Ah ben c'est déjà à moi. Alors on va y aller avec rapidement. Je vous rappelle que je suis dans les pages de la presse. On va aller dans les pages débat, si vous le voulez bien. Il y a cet éditorial de Marc Thibaudeau qui nous dit, et on parle là de l'avortement, que chez nos voisins du Sud, la question du financement de cliniques offrant des avortements ravive le débat entre pro-vie et pro-choix. L'avortement, qui n'est jamais vécu de gaieté de cœur, hein, mais il peut être profondément libérateur pour les femmes qui décident d'y avoir recours. Ce message élémentaire fait scandale aux États-Unis, où de nombreux activistes pro-choix ont décidé récemment de témoigner en ligne de leur expérience personnelle en utilisant le mot-clé abortion, c'est bien ça, oui, avortement, abortion, c'est bien ça. Pardon pour l'anglais, comme toujours, ça ne s'arrange pas mon affaire, mais que voulez-vous que je vous dise? Certains États nous expliquent, monsieur, ça fait pas longtemps qu'il écrit la Marc Thibaudeau dans la presse, certains États, nous dit-il, imposent des examens médicaux inutiles, comme une échographie ou une lecture obligatoire sur les caractéristiques de l'embryon dans l'espoir de leur faire changer d'idée. D'autres, disant agir pour assurer la sécurité des femmes, ont imposé des normes sanitaires, inutilement élevées, aux cliniques pratiquant l'avortement, compromettant leur viabilité financière. Le Texas a même voté une loi de ce type qui a entraîné la fermeture de dizaines de cliniques. C'est quelque chose, hein ?
Quelque chose. J'entendais justement...
Bonjour, Thibaut. Non, mais je suis contente. Thibaut Timmerman qui est déjà rentré en studio. Ouais.
Oui, non, ça me faisait réagir parce que j'entendais justement ce matin à la radio où on parlait de l'avortement, mais au Brésil qui est interdit. Ouais. Et il y avait un chiffre qui m'a paru sidérant, c'est que 2 Brésiliennes tous les jours décèdent des suites d'un avortement clandestin, ce qui est absolument sidérant.
C'est fou. Et moi-même ici, à cette émission-là, et beaucoup plus près encore... c'est en Nouvelle-Écosse ou à l'île du Prince-Édouard. C'est à l'île du Prince-Édouard où c'est encore interdit. Et il y a encore des femmes, entre autres, qui provoquent leur avortement en se faisant chuter dans les escaliers.
OK.
En 2015.
C'est
fou. Mais au Brésil, j'ignorais que c'était encore...
Si. Et c'est pas prêt de changer puisque c'est le Parlement brésilien actuel est l'un des plus conservateurs que le pays ait jamais connu. Peut-être pendant la dictature, mais enfin.
Ah, ouais.
Et l'une des militantes pour l'avortement décrivait ce Parlement comme celui du bœuf, des balles, et j'ai oublié le troisième B, mais en tout cas, le lobby de l'agroalimentaire, le lobby... le lobby de l'agroalimentaire, le lobby des armes et le lobby religieux.
Ah,
c'est ce qui animait le Parlement brésilien.
Celui que vous entendez là, c'est Thibaut Timmerman que je vais donc recevoir, mais officiellement dans quelques secondes. Juste avant, Thibaut, je voudrais quand même vous décrire la caricature géniale de Chapelot ce matin dans la presse.
Il le faut.
Parce que c'est là que j'étais ce matin. On se souvient tous, vous savez, de cette espèce de logo à la fin des dessins animés. Vous savez, là, quand on disait « That's all, folks hein? », on se souvient. Alors, ça faisait comme des cercles rouges avec... Bon. Eh bien là, il a repris exactement la même chose, sauf qu'au fond, c'est le sigle de Volkswagen. « That's all, folks ». Bonjour Thibaut.
Bonjour Clotilde,
allez,
bonjour à tous.
Déprimez-nous un bon coup là, allez.
Oh oui, j'étais en train de penser durant la pause, il aurait fallu mettre la musique justement des Looney Tunes pour essayer de conjurer le sort parce que...
C'est ça que je cherchais. Voilà. Les Looney Tunes, je cherchais l'expression, oui.
Parce que Vincent Jaubert, dans le Nouvel Obs a écrit et publié un article hier sur le site... du journal qui s'intitule « Scénario catastrophe, la troisième guerre mondiale a peut-être commencé aujourd'hui ».
Bon, moi je vous laisse parce que j'ai quelque chose... Non,
voilà, je vous avais annoncé que ça allait être terrible. En tout cas, l'article commence ainsi. Deux événements se sont produits, l'un à Moscou, l'autre dans le Golfe, qui pourraient être les déclics d'un affrontement généralisé. L'histoire retiendra peut-être, à Dieu ne plaise, que le troisième conflit mondial a débuté, à bas bruit, mercredi 30 septembre 2015. En 1914, tout avait commencé un 28 juin par l'assassinat à Sarajevo de l'archiduc d'Autriche. À l'époque, évidemment, personne n'avait imaginé que cet attentat, perpétré loin des capitales, allait conduire à la boucherie de la Grande Guerre. c'est le jeu des alliances et les responsabilités des somnambules. Là, je précise selon le titre du livre de Christopher Clark. Si vous ne l'avez pas lu, c'est vraiment très intéressant.
Donc, rappelez-moi le titre.
Les somnambules.
Les somnambules.
Tout simplement, c'est aux origines de la Première Guerre mondiale.
D'accord.
Donc Vincent Jobert précise que c'est le jeu des alliances et l'irresponsabilité des somnambules donc, qui gouvernaient alors les grandes puissances qui ont entraîné le monde vers l'abîme. Pourquoi une comparaison avec aujourd'hui, se demande-t-il. On a appris ce 30 septembre deux nouvelles apparemment peu graves, mais qui, combinées, pourraient être la double étincelle d'une déflagration que beaucoup redoutent depuis quelque temps. Et il précise qu'il s'agit tout d'abord de l'Arabie Saoudite, qui aurait à raisonner, donc aujourd'hui le 30 septembre, au moment où il écrit l'article, aurait à raisonner deux navires battant pavillon de son ennemi intime, l'Iran. Des bateaux qui étaient, semble-t-il, remplis d'armes à destination des rebelles houthistes du Yémen que Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite, combat militairement.
Ouais.
Cet arraisonnement est à l'évidence un acte hostile, si ce n'est un acte de guerre. Il se produit par ailleurs dans une atmosphère particulièrement tendue entre les deux pôles de l'islam, Téhéran ayant violemment reproché aux Saouds, les gardiens autoproclamés des lieux saints, de ne pas assurer la sécurité de base des pèlerins à la Mecque. Et on se rappelle que quelques 600 pèlerins sont décédés.
En plus que ça, même presque 800,
700,
je pense. Oui.
J'en étais resté à 600.
Oui.
Mais en tout cas, cette accusation gravissime a évidemment perturbé les relations qui étaient déjà passablement tendues entre chiites et sunnites. Ce n'est pas tout. Ce mercredi 30 septembre, Vladimir Poutine a fait voter par son parlement fantoche une loi l'autorisant à mener une opération armée en Syrie.
Oui.
Son aviation a déjà commencé à bombarder à Homs. Or, on sait que sur le terrain, les Russes sont alliés au régime de Bachar al-Assad et surtout aux Iraniens, tandis qu'en face, occidentaux et pays sunnites du Golfe mènent leur propre opération. Les deux coalitions, qui ont sur plusieurs points des objectifs totalement opposés, risquent de se retrouver face à face. Et c'est là que prévient Vincent Jobert. Il semble d'ailleurs que les bombardements russes de ce jour aient déjà touché une position de rebelles soutenue par les États-Unis. Une information pas encore confirmée, mais qui évidemment, si elle l'était, pourrait passablement aggraver les choses.
Au témoin d'un doute, si je comprends bien un petit peu les enjeux là-bas, c'est que finalement, Poutine y défend Bachar al-Assad.
Oui,
alors que du côté de la France, par exemple, on dit la première chose qu'il faut faire, c'est enlever ce gars-là de la Syrie, non ?
Tout à fait. En fait, il y a comme une forme de mésentente dans le sens où on ne s'entend pas réellement sur les objectifs. On voudrait apaiser la région, on voudrait que la guerre cesse, mais on ne veut pas mettre les mêmes moyens.
Non, c'est ça,
exactement. Il faut se débarrasser effectivement de Bachar al-Assad, parce que statistiquement, c'est lui qui et son régime qui commettent le plus de meurtres dans la région.
On parle de
crimes,
mais
je
c'est
dis
ça.
De meurtres, mais en fait, il s'agit bien de crimes de guerre. D'ailleurs, un photographe syrien a déposé une plainte pour crimes de guerre à l'encontre de Bachar al-Assad en France. Et du côté de la Russie, on dit, mais la menace la plus sérieuse,
c'est
l'État islamique. Et le fait de soutenir Bachar al-Assad va nous permettre de se débarrasser de l'État islamique. Et après, là, c'est mon commentaire personnel, mais que j'ai lu également dans la presse. Le problème aussi, c'est que tant qu'on ne met pas des hommes sur le sol, il y aura davantage de risques que des personnes soutiennent l'État islamique. Or, c'est aussi tout ce que ces gens-là attendent.
Exactement.
C'est-à-dire, si on intervient au sol, ça va être comme une nouvelle croisade. C'est ça que l'État islamique attend. Donc, c'est une situation vraiment tendue. Et là, finalement, la situation de ce que décrit Vincent Jobert, cette troisième guerre mondiale, c'est le risque que, et on l'a vu en fait hier, c'est que la Russie intervienne sans prévenir les États-Unis. Et en gros, hier, la Russie est intervenue à Homs en prévenant les États-Unis seulement une heure à l'avance. Un général russe est allé à l'ambassade américaine de Bagdad en disant « On intervient dans une heure, vous dégagez vos avions. »
Ouf !
Voilà. Donc, John Kerry et Vladimir Poutine se sont parlé hier soir. Donc, bon, les journaux n'en ont peut-être pas encore parlé, c'est en cours de route. Mais en disant « Il faut vraiment qu'on discute, parce que si jamais, par malheur, nos avions se percutaient ou se frôlaient, Bon, on ne sait pas ce qui pourrait
arriver. Oui, effectivement.
Donc, on ne sait pas. Hein, le scénario, l'article dit ce scénario catastrophe n'est pas sûr, y compris celui que nous venons de décrire. Il n'est pas écrit que les gouvernements actuels soient des somnambules, qu'ils n'empêcheront pas le conflit militaire de s'étendre au-delà de la Syrie et de l'Irak. Mais certains acteurs de cette partie sont tellement à cran qu'on ne peut l'exclure. Tout à fait.
Rappelez-moi le nom du journaliste.
Vincent Jobert.
Et c'était dans
le Nouvel Obs.
D'accord, merci. Alors, je vous rappelle qu'à l'émission Les Voix de Service, c'est Clotilde Sey. Je suis toujours en compagnie de Thibaut Temmermann qui nous éclaire un petit peu sur les enjeux internationaux grâce à des papiers qu'il nous amène aujourd'hui. Vous avez autre chose à nous proposer ?
Oui, je voulais vous proposer de parler d'histoire aussi, parce que c'est également une de mes passions.
Oui.
Et aux origines du drapeau québécois.
Ah oui !
Oui, et en fait, j'ai hésité à appeler cela un cochon à l'origine du drapeau québécois. Et je me suis dit, je ne veux pas faire dans la provocation, mais je trouve le raccourci tellement saisissant et il montre à quel point l'histoire peut être dépendante de hasards totalement incongrus que je trouvais ça absolument fascinant. Simplement pour une petite précision, quand on parle du bleu du Québec, bon, on pense en fait au bleu qui était déjà employé du temps de Clovis chez les Mérovingiens.
Ah oui.
Sauf que le drapeau du royaume de France, en fait, pendant longtemps, ça a été un drapeau blanc avec des fleurs de lys. Mais pourquoi le bleu ? Eh bien, c'est une question à laquelle répond en partie l'écrivain Michel Pastoureau, qui est un spécialiste des symboles, donc des animaux et des couleurs notamment. Et il y a cet article de Franck Jacquet qui a été publié sur le site Toute la Culture qui parle du dernier livre de Michel Pastoureau. Et vous allez très vite comprendre pourquoi je parlais du cochon. C'est Entre l'ours et le cochon, la monarchie capétienne. Et ça commence ainsi. Un accident de quotidien peut bouleverser l'histoire d'une monarchie et de ses représentations. Nous sommes en 1131. J'ose pas dire l'an de grâce parce que vous allez voir que en royaume de France n'était pas béni par la grâce de Dieu à ce moment-là. Ça, c'est mon commentaire personnel, je ferme la parenthèse.
Oui.
L'histoire est simple. L'historien nous la relate avec les quelques détails qui se chevauchent et se contredisent parfois, issus des chroniques de l'époque. Philippe est roi élu, mais non sacré, car en fait dauphin de son père Louis VI le Gros. La tradition de l'élection du vivant du père régnant était encore présente au XIIe siècle pour éviter les conflits de succession. Philippe est donc un jeune homme d'une quinzaine d'années, beau, intelligent, etc. Son accession au trône serait largement espérée comme un bon roi pour succéder à un père assez redouté. Il rentre de chasse dans une forêt du domaine royal proche de Paris. Là, un cochon des faubourgs se jette sous les pattes de son cheval. Le jeune homme tombe, il meurt dans la soirée. L'accident est mortel pour l'héritier, donc l'héritier couronné. La succession au sein de la famille est tout de même assurée, grâce à son frère qui deviendra donc le roi Louis VII. Pastoureau le rappelle, la mort à la chasse n'est pas unique. Louis V avant lui, ou Philippe le Bel, deux siècles plus tard, seront des victimes plus importantes encore de cette pratique royale.
Mais oui.
Le premier étant le dernier des Carolingiens, le second le premier des fameux rois maudits, selon l'expression de Maurice de Ruan. Cette mort pourrait donc paraître avec recul anodine. Sauf que, elle est définie comme porteuse de grands changements ou reflète des inflexions majeures de l'histoire de la dynastie et de la société capétienne. Cette mort est en premier lieu infamante, car causée par un animal déprécié au Moyen-Âge, même s'il était important de le régime alimentaire en Occident. Les symboles religieux antiques, les légendes et représentations tenaces font de l'animal un être reflétant le mal et le péché.
Mais c'était un sanglier plus qu'un cochon, je pense, non ?
Justement, non, c'était vraiment un cochon.
C'était vraiment
des villes,
un cochon, là,
celui
bon,
qui se nourrissait des déchets que les gens jetaient dans les rues. Donc c'était vraiment un animal.
Oui, oui.
Parce que justement, c'est pas un sanglier, mais vraiment un cochon, vulgaire animal de la plèbe.
Ouais.
Donc c'est pas un sanglier un cerf, un animal de plus en plus à la mode dans la chasse, ni même un ours, même si l'ours est un petit peu relégué au point de vue symbolique à cette période du Moyen-Âge. la monarchie française ne peut en être que dépréciée. Il faut dire que cette dynastie capétienne n'est installée que depuis 1987. Elle est moins prestigieuse que les dernières branches carolingiennes ou que ses voisins du Saint-Empire romain germanique. Par ailleurs, le roi Louis VI n'est lui pas non plus pas très apprécié. Une lignée mise à bas par un cochon ne peut être qu'une tache noire à laquelle il faut remédier.
D'accord.
Pour ça, les solutions pour purger ce mauvais souvenir sont l'adoption progressive de symboles christiques plus évidents pour la monarchie capétienne.
Ouais.
Et le chat retombe sur ses pattes, le lys et le bleu azur.
Ah.
Les attributs de la Vierge. Et des années plus tard, quand on choisira le drapeau du Québec, fleur-de-lysée, le fleur-de-lysée est de couleur bleu azur. Ce sont les couleurs et les attributs de la Vierge.
Voilà. Ok.
Voilà. Et ce, donc, plusieurs années avant que Louis XIII s'approprie les attributs de ce drapeau, finalement.
Ah ben, quand je vous dis que si vous écoutez les voix de service, vous allez vous endormir moins idiot, un peu plus instruit, ce soir en vous couchant. Une affaire de melon maintenant.
Oui, oui. Pas ceux qui prennent le melon, mais bien le fruit, le
cucurbitacé. Pas le chapeau.
J'allais dire le cucurbitacé, non, c'est même pas un cucurbitacé.
Le fruit. Le melon de Cavaillon. Quel melon vous allez nous parler
Non, celui de Montréal.
Ah bon?
Moi, je ne le connaissais pas non plus.
Non.
Mais c'est un entrefilé paru sur le site du journal Métro qui m'a vraiment surpris, mais alors, en même temps intéressé. Il existait une variété de melon qui s'appelait le melon de Montréal.
Le melon de Montréal.
Oui, qui aurait disparu au XXe siècle en raison du développement urbain. On parlait de développement urbain tantôt. Il était cultivé à l'époque sur des terrains dans les arrondissements d'Outre-mer et de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Et en lieu et place, il y a maintenant des immeubles et l'autoroute des Caries. Mais le melon de Montréal était connu jusqu'à Boston et New York.
Ah oui ?
Si bon qu'une seule tranche était vendue au coût d'un steak, ont rapporté l'ancien vice-recteur Pierre Simonet et l'historienne Sophie Cardinal, qui ont réalisé en 2013, l'exposition « La face cachée de la montagne » au Centre d'histoire de Montréal. Heureusement, dans les années 90, des semences de ce melon de Montréal ont été retrouvées aux États-Unis. Les recherches se sont poursuivies, notamment grâce à la journaliste Sophie Lachapelle, qui a rencontré une famille qui fait dorénavant pousser le melon depuis à Montréal. Et il y a un organisme qui s'appelle Slow Food Montréal qui tente, lui, de retrouver la souche de ce fruit mythique.
Mais ça veut
local.
Dire que là, maintenant, on peut en retrouver du melon de Montréal ou pas encore?
Je sais pas. Faudrait voir.
Il travaille.
Se renseigner sur cet organisme Slow Food Montréal. Peut-être qu'on le verra sur nos étals ou dans les restaurants, qui sait.
Merci beaucoup, Thibault.
Merci,
à l'international et puis aussi passionné d'histoire qu'on retrouvera jeudi prochain. Je vous souhaite une belle semaine. Merci d'avoir été là.
Merci, bonne fin de journée.
On en parlait hier avec Christiane et Clotilde. Les Blue Jays s'en vont vers un championnat de division. Eh bien, c'est maintenant chose faite puisqu'ils ont écrasé hier les Orioles 15-2. On s'en va au sport. C'est Kevin Breton au micro. Kevin Breton avec vous pour les quelques prochaines minutes seulement, juste le temps de vous lire les articles qui ont le plus retenu mon attention dans l'actualité sportive de la journée. Les Blue Jays de Toronto ont décroché un premier titre de la section Est de la Ligue américaine depuis 1993, hier en écrasant les Orioles de Baltimore par la marque de 15-2 dans le premier match d'un programme double. Les Jays se sont ainsi assurés de devancer les Yankees qui n'ont toujours pas officiellement leur billet pour les séries. Ceux-ci affronteront les Red Sox de Boston en soirée. La formation du gérant John Gibbons participera donc aux séries pour la première fois en 22 ans, au terme d'une saison riche en rebondissements. Depuis la date limite des transactions le 31 juillet, marquée par l'arrivée de plusieurs gros noms dans la ville reine, dont David Price et Troy Tulowitzki, les Jays ont gagné 39 de leurs 53 sorties. L'équipe, assemblée par le directeur général Alex Antopoulos, est ainsi passée de la troisième à la première place de cette division. À son quatrième départ de l'année, Marcus Stroman a conservé sa fiche immaculée avec une brillante performance de 8 manches durant laquelle il n'a accordé que 5 coups sûrs et un point mérité. Les gros canons des Jays ont tonné en fin de rencontre. Edwin Encarnacion, José Bautista et Justin Smoke ont cogné des longues balles. Bautista est devenu le deuxième membre du club torontois à frapper 40 circuits cette année après Josh Donaldson. Celui-ci n'a pas été en reste avec 2 coups sûrs, dont un double d'un point, 2 buts sur balle et un point marqué. Le receveur québécois Russell Martin a ouvert la marque en deuxième avec un double qui a envoyé Encarnacion au marbre. Ryan Goins a frappé 5 coups sûrs, la première performance du genre réalisée par un arrêt court dans l'histoire des Jays, rien de moins. Steve Pearce a assuré la maigre réplique des Orioles, champion de l'Est l'an dernier, avec un circuit en solo en 7e. Gibbons a envoyé le vétéran LaTroy Hawkins dans la mêlée en 9e. Ce dernier a déjà annoncé qu'il prendrait sa retraite au terme de la présente saison. Après avoir accordé un triple d'un point à Steve Clevenger, il a retiré sur élan Jimmy Paredes et Ryan Flaherty pour mettre fin au match. Dans la deuxième rencontre, les Blue Jays se sont inclinés 8-1. C'est un texte tiré du Journal de Montréal d'aujourd'hui de l'agence QMI. Maintenant, on passe au tennis. Serena Williams met un terme à sa saison, la numéro 1 mondiale, qui a échoué à réaliser le Grand Chelem cette année en s'inclinant en septembre en demi-finale des Internationaux des États-Unis, a mis un terme à sa saison pour se soigner, a-t-elle annoncé aujourd'hui, dans un communiqué. « Je prends les devants et je me retire des tournois de Pékin et de Singapour pour prendre soin de ma santé » et prendre le temps de guérir, a expliqué l'Américaine aux 21 titres du Grand Chelem, qui n'a plus joué depuis sa désillusion à Flushing Meadows. Victorieuse successivement des internationaux d'Australie, de Roland-Garros et de Wimbledon en 2015, Serena Williams, âgée de 34 ans, s'était présentée à New York fin août, avec l'occasion de réaliser le Grand Chelem, une performance exceptionnelle qui n'a plus été réalisée sur le circuit de la WTA depuis Steffi Graf en 1988. J'étais pas né encore en 1988. Mais sans doute écrasée par la pression, la cadette des sœurs Williams avait cédé à la surprise générale en demi-finale face à l'Italienne Roberta Vinci, aussi âgée de 32 ans. Alors seulement 43e mondiale, après avoir pourtant tranquillement empoché le premier set. Avant cette défaite inattendue, qui a aussi coupé court à ses espoirs de rejoindre Graf au nombre de couronnes en Grand Chelem, Williams ne s'était plus incliné à Flushing Meadows depuis la finale des Internationaux des États-Unis de 2011, perdue cette fois-là face à l'Australienne Samantha Stosur. Ce n'est pas un grand secret que j'ai joué blessé la majeure partie de la saison, que ce soit mon épaule, mon genou ou ces derniers temps, après un certain match à Flushing, mon cœur, a rappelé l'Américaine. Je suis une compétitrice acharnée et je veux jouer aussi longtemps que je le pourrai. Je compte reprendre l'entraînement et participer à des matchs d'exhibition plus tard cette année. Serena, qui totalise 5 titres en 2015 et 69 trophées en simple dans sa carrière, ne sera donc pas présente à Singapour pour le rendez-vous de fin d'année entre les 8 meilleures joueuses de la saison, dont elle est triple tenante du titre. C'est un texte de l'agence France Presse. Est-ce que Las Vegas est en avance sur Québec pour obtenir une concession de la LNH? C'est la question que le Journal de Montréal et l'agence QMI s'est posée dans un titre « Las Vegas en avance sur Québec? » Point d'interrogation, il est écrit « La viabilité financière du projet d'expansion de la LNH est plus importante que tout aux yeux du commissaire Gary Bettman, soutient le professeur au département de marketing de l'Université Laval, Franck Ponce. » Celui-ci croit qu'il n'y a pas seulement la passion de la population qui dictera la décision de la LNH d'aller ou non de l'avant avec un élargissement de ses cadres. L'idée est toujours la même pour la LNH. Ces nouvelles franchises seraient-elles viables à long terme? Il n'y a aucun doute sur l'engouement à Québec, Mais est-ce viable financièrement, a-t-il indiqué en entrevue à la chaîne TVA Sport hier. La vente de billets et de produits dérivés n'est qu'une partie du revenu. Dans les ligues majeures du sport, énormément de revenus proviennent des droits télévisés et des commandites attachées aux présences télévisuelles. L'avantage des États-Unis, c'est qu'il s'agit d'un plus gros marché que le Canada. Il ne faut pas oublier cet aspect quand on compare les marchés de Québec et de Las Vegas. La ferveur sera toujours là à Québec, mais va-t-on convaincre les entreprises locales de s'impliquer? Deuxième question, le marché télévisuel sera-t-il toujours aussi fort? On peut avoir des questions sur ce sujet d'avancée. Monsieur Franck Ponce. À l'entendre parler, Las Vegas part avec une longueur d'avance sur la vieille capitale. La LNH veut être aussi forte que les autres ligues comme la NBA et que sa présence couvre l'ensemble du territoire. Or, si elle se met à retirer de certains territoires, elle risque de perdre de cette valeur. Au Québec, on a tendance à l'oublier, mais c'est sur cet aspect que la LNH va prendre sa décision. Dans ce cadre, la candidature de Las Vegas est très intéressante. Le fait que la ville du vice ne compte aucune équipe parmi les quatre principales ligues de sport est à son avantage, d'après ce spécialiste du marketing de l'Université Laval. Comme aucun sport professionnel de premier plan n'est présenté à Las Vegas, ce serait une marque très importante pour la LNH d'être la première ligue à s'y implanter et d'avoir une visibilité accrue. Il y aura aussi des rivalités importantes à proximité, comme avec les équipes de la Californie. Peu importe la décision de la Ligue, Bettman a le gros bout du bâton de conclure Ponce. Le Panthéon des sports du Québec a tenu hier soir son 25e gala d'intronisation sous la présidence d'honneur de Marc Bergevin. Et il n'a pas manqué de rendre hommage au regretté fondateur Edgar Théoret. C'est un texte de Pierre Durocher dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. J'espère que le rêve d'Edgar se réalisera un jour, a lancé le directeur général du Canadien, en faisant allusion au fait que le dossier d'un musée du sport au Québec ne s'est toujours pas concrétisé. Edgar Théoret est décédé en janvier dernier et un bel hommage lui a d'ailleurs été rendu au cours de cette soirée qui réunissait 400 convives au club de golf métropolitain à Anjou. Dans ses efforts et son engagement, le Panthéon des sports du Québec le Panthéon des sports du Québec n'existerait pas aujourd'hui. Maintenant, le temps est venu d'avoir un musée pour transmettre les souvenirs de nos grands athlètes et entraîneurs de génération en génération. Ça fait trop longtemps que le dossier est sur la table. C'est une question de volonté politique, a commenté le président du Panthéon, Jacques Barry. La ville de Montréal est prête à embarquer dans le projet, mais il nous reste à entendre au sujet de l'endroit où il serait construit. J'aimerais que Denis Coderre mette autant d'efforts dans ce projet qu'il en met dans celui du retour du baseball à Montréal. Selon lui, le site idéal serait le chalet d'accueil du parc Maisonneuve, tout près du stade olympique. On pourrait le rénover et l'agrandir sans dénaturer le parc, a expliqué Barry. Il est grand temps de passer à l'action. Et sur ces sages paroles, j'accueille mes collègues Clotilde et Anne-Laure. En terminant, vous dire que Max Pacioretty sera de retour au jeu ce soir pour l'avant-dernier match du calendrier préparatoire du Canadien.
Est-ce qu'ils vont gagner?
Oui, ben ils ont la formation complète qui va être là ce soir, donc on espère que oui. Ouais.
Carey Price dans les buts?
Effectivement.
Yeah!
Est-ce que le match va être télédiffusé?
Oui, télédiffusé sur les ondes de RDS 2, puisque sur RDS 1, ce sera le match des Alouettes.
Ça veut dire que je ne vous invite pas ce soir à aller prendre une bière quelque part. Je pense qu'on sait ce que vous allez faire.
Même pas, j'écouterai pas le match. C'est la pré-saison, donc.
J'accueille tout de suite Anne-Laure Janson. Bonjour Anne-Laure. Je rappelle qu'Anne-Laure est celle qui préside les destinées de l'émission, une émission formidable. Si vous ne la connaissez pas, il faut que vous la découvriez à tout prix sur nos ondes. Ça s'appelle Audio Portrait, avec ces gens qui se racontent.
Exactement.
Non-voyants.
Bonjour,
qui se racontent. Vous allez bien, Anne-Laure?
Oui, ça va très bien. Merci beaucoup.
Et vous arrivez avec un sujet. Vous m'avez parlé de ça tout à l'heure dans le couloir et j'ai très, très hâte que vous nous parliez de cet homme.
Ben oui. Oui, je me demandais même si vous en aviez pas déjà parlé, parce qu'il a fait quand même bouger sur la toile. C'est un jeune Syrien de 21 ans, Hani Al-Molia, qui a fui sa ville de Homs en Syrie, qui est allé au Liban et qui a été rapatrié par le Canada en Saskatchewan. Il vit maintenant à Regina. Et il a une histoire vraiment particulière. Il est légalement aveugle. Il est atteint d'une maladie qui s'appelle le nystagmus, qui en fait l'empêche de voir au-delà de 10 cm. Et c'est un jeune photographe extrêmement talentueux. Radio-Canada en a parlé fin septembre. Mm-hmm. Je vais vous lire l'article et je vais vous donner de ses nouvelles juste après. Donc, un réfugié syrien aveugle trouve le salut dans la photographie.
C'est formidable, ça.
De la Syrie à Regina, en passant par les camps de réfugiés du Liban, un jeune réfugié aveugle a utilisé sa passion pour illustrer son périple et garder espoir. Hani Al-Molia, âgée de 21 ans, est atteinte du nystagmus, un mouvement involontaire et saccadé des yeux. Tout ce qui se trouve à plus de 10 cm lui apparaît flou. La photographie l'aide à faire le focus sur ce qui se passe autour de lui. Cette passion lui a aussi permis de trouver refuge au Canada. Hani Al-Molia finissait l'école secondaire en 2012 et rêvait de devenir ingénieur lorsque sa famille a fui la ville de Homs, en Syrie, après que son oncle et des cousins eurent été tués dans leur maison. L'étudiant a fui avec des vêtements et son diplôme. « J'espère que ce sera utile. J'ai risqué ma vie pour cela », a-t-il dit en entrevue dans sa maison de Regina. Sa famille s'est d'abord établie dans un camp au Liban, mais sa condition oculaire a rendu l'adaptation encore plus difficile. Au camp, j'essayais de rester dans l'ombre, dans la tente, je ne pouvais pas sortir quand je voulais. La photographie comme salut. Durant son séjour, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a tenu un atelier de photographie pour encourager les jeunes réfugiés à explorer et à partager leur quotidien. Et les photos d'Annie ont rapidement retenu l'attention.
Oh là là.
Ces descriptions poétiques de ces clichés ont impressionné les visiteurs du camp. De plus, le jeune homme a appris l'anglais seul sur YouTube par l'intermédiaire de chansons. Alors, ses attributs ont fait de lui un exemple unique de la crise.
C'est incroyable, excusez-moi. Il a appris l'anglais sur YouTube par l'intermédiaire de chansons.
Ouais.
Je me sens un petit peu nulle, moi, qui ai encore du mal à apprendre l'anglais après 30 ans au Québec. En tout cas.
Et il parle bien parce que l'ONU a fait une vidéo sur sa vie dans le camp comme exemple de ce que les jeunes vivaient. Et il s'exprime en anglais très, très bien.
Ah, oh, wow.
Oui, oui.
Alors, est-ce que vous avez une photo ou deux à nous décrire? Est-ce qu'il y a
Oui, c'est ça. Il y a des photos. On voit. Il s'est beaucoup intéressé aux enfants.
Aux enfants.
Parce qu'il a un petit frère qui est né l'année où la guerre a commencé. Et il explique que lui, il n'a jamais connu la Syrie. Il n'a pas de souvenir de la Syrie. C'est un enfant du camp. Donc, il y a beaucoup d'enfants qu'on voit courir, rire, faire des activités. De pelleter
des choses utiles sur place.
Des personnes âgées. En fait, il y a beaucoup de réfugiés de Homs, donc c'est ça, un quartier de la ville qui se retrouvait dans ce camp.
Homs qui a d'ailleurs été bombardé par les Russes. Là,
oui,
hier.
C'est vrai, la Russie
bombarde. On en parlait tout à l'heure avec Thibault Zimmermann.
Et Annie, aujourd'hui, vit à Regina. L'université de Regina et la rectrice ont été particulièrement touchées par son histoire. Des dons privés l'aident à continuer des cours d'anglais à la faculté d'éducation permanente de l'université. Des discussions sont aussi en cours pour lui permettre de peut-être un jour devenir ingénieur, ce qu'on espère. L'ONU, donc je vous le disais, l'agence des réfugiés a fait une vidéo sur lui dans le camp où il a vécu avec sa famille qui s'appelle « Looking for Annie, Still Lives ». C'est vraiment intéressant. Je pense que Kevin va, si ce n'est déjà fait, le partager dans les médias sociaux de Canal M. Et c'est drôle parce qu'on le voit dans cette vidéo parler à sa mère et lui demander « Alors maman, qu'est-ce qui te manque le plus de notre maison ou de notre vie d'avant ?» Et sa mère lui dit « Notre vieille cuisine ». Et là, Annie dit « Bon, pourtant, la vieille cuisine, tu t'en plaignais tellement. » Alors, c'est vraiment...
Oui.
C'est touchant et ça nous rappelle qu'il y a vraiment des vies derrière ces milliers de réfugiés.
Oui.
On n'avait pas le choix de partir.
Non, c'est ça. Comme je dis toujours, nous sommes nés du bon côté.
C'est ça.
De la frontière ou de la rivière. En tout cas, utilisez l'image que vous voulez. Ça aurait été un formidable invité pour l'émission Audio Portrait s'il avait pu. Mais est-ce qu'il parle anglais ou syrien, j'imagine? Il parle peut-être pas français.
Non, il
parle pas du tout français.
Ouais.
Mais parlez-nous d'Audio Portrait. Qui sera votre prochain invité
Alors, Audio Portrait, ça va être quelqu'un aussi qui s'intéresse à l'image. C'est Nicole Trudeau, qu'on va pouvoir écouter mardi à midi.
Oui.
Mardi prochain. Et tout de suite après votre émission, dans Ça vaut le détour de Luc Fortin, on va entendre Serge Poulain qui va nous raconter aussi un autre artiste, mais lui qui s'intéressait à la musique, et paraît-il qu'il aurait l'oreille absolue.
Ah oui.
On va parler du métier d'accordeur de piano avec lui. Lui est accordeur depuis 79. Il est sorti de l'école de l'Institut Nazareth et Louis Braille en 79. Il m'a raconté que c'était le dernier. Après ça, l'école a fermé. Il n'y a plus d'école d'accordeur au Québec. Oh. Maintenant, il faut aller en Ontario. Donc, il va nous raconter sa passion pour le métier d'accordeur et ce mystérieux métier tout à l'heure, à midi, dans Ça vaut le détour.
Quand je vous le dis, ne ratez pas ces émissions-là. Parlez autour de vous de Canal M. Ouais, moi, je vous jure, vous me parlez de ça, puis j'ai le frisson. Qui d'autre que nous allons parler de cela? C'est pour ça qu'il faut que Canal M existe. Amis aussi, d'ailleurs, à la télévision, parlez-en autour de vous. Nous existons pour nous trouver sur le canal, entre autres, par Internet, évidemment, à part parvusezvoix.com, mais aussi, si vous avez la télévision, évidemment, je ne connais pas tous les canaux qui nous diffusent, parce que ça dépend si c'est sur le câble, si c'est Bell, Vidéotron, tout ça. Ce que je peux vous dire, Vidéotron, c'est facile. Si vous ne vous souvenez plus du 577, on est la dernière radio.
Exact.
C'est-à-dire que quand vous faites toutes les radios, là, la dernière, c'est la nôtre. Alors, parlez-en.
Vive Canal M.
Oui, vive Canal M, parce que je pense que nous avons vraiment une mission, nous avons une vocation, et que des émissions comme la vôtre, comme celle de Luc Fortin, évidemment, également non-voyant, ont leur place. Et
oui,
leur
c'est
place
vrai.
Et uniquement ici, quoi,
et
finalement.
Et n'hésitez pas à nous dire ce qui vous intéresse aussi.
Oui, exactement. Envoyez-nous vos commentaires via le site www.vusezvoix.com. Ouais. Merci beaucoup, Anne-Laure.
Merci, Clotilde.
Alors, nous voici partis en région et on parle d'une exposition au Centre sportif de Gatineau, c'est donc dans le droit, et d'une photo, la photo d'une fémène qui aurait été censurée. Guillaume Lapierre nous raconte qu'au moment où la planète entière s'émeut devant les images chocs relayées dans les médias de la crise des migrants syriens dont nous parlions, une photographie montrant des militantes du groupe Femen manifestant seins nus au centre-ville de Montréal lors du dernier Grand Prix du Canada a été censurée à Gatineau. La population a été invitée jusqu'à hier à découvrir les meilleurs clichés croqués par les photojournalistes du Québec l'an dernier. Cette exposition organisée par la section régionale de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, la FPJQ, était présentée au Centre sportif. Mais donc, il y a cette photo de cette fémène, les seins nus, qui a été retirée de l'expo. Si bien que Patrick Duquette signe une chronique sur le sujet ce matin qui s'intitule « Plus loin que la paire de seins », où il dit « J'en ai contre la censure bête et ordinaire. J'en ai contre ses parents qui n'ont rien vu d'autre dans cette fabuleuse photo de presse que les seins nus de la femme. » Que le pénis de plastique hardiment dressé entre ses jambes écartées. J'en ai contre ses parents, dit Duquette, qui ont vu dans une des photos de presse les plus extraordinaires de vérité prises au Québec en 2014 qu'une photo porno susceptible de perturber les pauvres petits-enfants. J'en ai contre les employés de la ville de Gatineau qui n'ont rien vu d'autre que des parents qui se plaignaient et qui ont décidé, pour avoir la paix, de retirer la photo de l'exposition sans penser à mal ni consulter leurs supérieurs. J'en ai contre le fait qu'il suffit de la réaction scandalisée d'une vingtaine de bien-pensants à Gatineau pour qu'une photo qui témoigne avec une criante vérité de notre société moderne se retrouve bêtement cachée derrière un comptoir. Et tant pis pour la liberté d'expression, qui est plus fragile qu'on le croit dans notre belle démocratie. S'il y a un scandale dans cette histoire de censure bête et ordinaire à la ville de Gatineau, dit M. Duquette, il est là, dans le refus de voir plus loin qu'une paire de seins. Voici maintenant dans les pages de la Tribune où évidemment Madame Thibault fait la une. Elle fait la une d'absolument tous les journaux ce matin. Vous le savez que finalement elle en a pris pour 18 mois de prison, mais comme elle va faire appel, ça veut dire qu'elle devrait sortir très très rapidement, bien sûr. Donc elle devrait être dehors pour pouvoir aller faire appel de cette décision. L'éclipse sanitaire, ça c'est une chronique dans la rubrique Perspective, signée quotidiennement ou presque par Luc La Rochelle dans la Tribune. Et ça fait référence à cette nouvelle dont Jonathan Cousteau fait état dans la Tribune ce matin, qui dit que la ville envisage de construire des bassins de rétention souterrains. On nous dit que la pluie des derniers jours a provoqué de nouveaux déversements d'égouts sanitaires dans les rivières Magog et Saint-François. L'association de la rivière Magog a publié une vidéo sur sa page Facebook mardi pour déplorer la situation. Un citoyen avait fait la même chose en juin, ce qui avait permis à la ville de Sherbrooke de constater la présence d'un bris sur le réseau. Et dans la vidéo en question, on aperçoit une boue brunâtre s'échapper d'une conduite directement dans la rivière Saint-François. Et Luc La Rochelle qui nous dit, aux yeux de plusieurs, donc il réagit à cette nouvelle d'actualité, il dit, aux yeux de plusieurs, les sables bitumineux souillent l'image environnementale du Canada. Que pensez-vous par ailleurs de ces nouvelles images circulant sur la page Facebook de l'association de la rivière Magog et montrant les effets d'un autre déversement sanitaire dans la rivière Saint-François? Faudrait qu'on s'en parle un peu, non? Ça sentait mauvais et ce n'était pas particulièrement joli mardi après-midi sur les berges du centre-ville. Les eaux usées débordaient et se vidangeaient directement dans la rivière. Cela se produit de 900 à 1000 fois par année sans qu'on s'en soucie. Pourquoi ce débordement a-t-il été plus visible? Comme pour la lune de sang dimanche soir, c'est l'alignement des planètes qui a provoqué cette éclipse sanitaire. À la suite de la vague de beau temps de la dernière quinzaine, la rivière Saint-François était claire. Son débit était lent, l'eau des premières averses a emprunté la même canalisation que les rejets sanitaires et en un rien de temps, les égouts se sont mis à déborder. La ville livre les mêmes explications que d'habitude. Ces débordements partant de pluie sont autorisés par Québec. Nous faisons ce que nous pouvons avec les moyens que nous avons pour remplacer les infrastructures désuètes. Et comme c'est un investissement colossal, l'installation de canalisations séparées pour les égouts sanitaires et pluviaux s'étalera sur 30 ou 40 ans. Une citation ici. Il est vrai qu'il serait coûteux d'éliminer cette pollution, mais a-t-on raisonné de cette façon pour les viaducs? Ceux qui devraient être remplacés l'ont été, sans égard aux déboursés. Sur les enjeux environnementaux, on reporte et on reporte. Et ça finit par nous rattraper, juge Mohamed Osseran, qui est un ingénieur spécialisé en hydrologie urbaine, qui a été conférencier devant un parterre de 1500 professionnels l'automne dernier à Montréal. Alors voilà donc ce qu'on peut dire pour le moment. C'est vrai qu'à Sherbrooke, on s'inquiète de cette situation-là, mais en attendant, cela continue. 900 ou 1000 fois par année, il y a des déjections sanitaires qui vont se glisser dans la rivière Saint-François, qui passe à Magog. Et moralité, non seulement ça c'est laid, non seulement ça pue, mais je ne vous parle même pas de la pollution. J'aurais voulu vous lire un ou deux papiers dans Le Soleil, mais Le Soleil électronique refuse systématiquement de s'ouvrir ce matin. Tant pis, je vais aller voir ce qu'il y a dans les pages du quotidien. Alors, dans les pages du quotidien, d'abord cette photo que je trouve absolument délicieuse. Je vous raconte. On nous montre Eugène Bostic. Eugène Bostic, il est de Fort Worth au Texas et Monsieur Bostic a des chiens. Et il promène ses chiens, évidemment, comme tout le monde, mais il ne promène pas ses chiens au bout d'une laisse. Deux ou trois fois par semaine, il fait monter les chiens dans un petit train qu'il a construit lui-même et il leur fait faire le tour de sa propriété de 12 acres. Alors derrière un petit tracteur, hein, c'est vraiment un petit tracteur d'ailleurs qui pourrait ressembler à ceux qu'ont les gens qui tondent leur gazon, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espèces de citernes en plastique, là, qui ressemblent à des barils, mais en plastique. Alors, il a creusé, il a fait un trou dans chacune des citernes, il a mis des roues dessous, et là, on voit 7 chiens dans chacun des barils. Je vois 2 espèces de labrador. À l'arrière, il y a 4 bons vieux chiens. On voit qu'ils ont le museau tout blanc, pas des chiens de race. Et alors, au milieu, il y a un tout petit kiki. Genre un petit, comment on appelle ça, un petit Jack Russell, qui lui aussi est au milieu et ils ne bougent pas. Ils sont assis chacun dans leur barrique et le monsieur qui les promène gaillardement. C'est vraiment une photo absolument délicieuse que j'ai trouvée dans le quotidien. Voilà, sinon à la une du quotidien, ce qu'on nous disait et ce qui retient l'attention, c'est la violence à la chasse. Figurez-vous que les gens qui chassent l'orignal dans ces coins-là, il y en a qui se font littéralement une chasse entre chasseurs parce qu'il y a des chasses gardées. Il y a des terrains sur lesquels certains chasseurs ne veulent pas que les autres chasseurs viennent chasser. Vous me suivez? Et j'ai dit ça sans bafouiller. Je suis très, très fière de moi. Eh bien, on est obligé de mettre la police là-dedans. Eh oui! Voilà. Oh, j'ai failli me faire avoir par la lumière. Vous écoutez toujours Clotilde Say, vous êtes toujours sur les ondes de Canal M et c'est le magazine Les Voies de Service qui se prolonge jusqu'à 11h45, heure à laquelle Christiane Campagna viendra me rejoindre pour vous présenter le bulletin du handicap. Mais pour l'instant, c'est l'heure de parler d'actualité culturelle. Et c'était pas vraiment du Shostakovich qu'on présentait hier au Centre Bell, mais c'était bien l'événement du soir. Stevie Wonder qui était là et alors nous, on n'a pas pu y aller. Sauf, non, c'est pas vrai, il y en a un qui a pu y aller. C'est l'ami Jean-Richard Lefebvre. Montez un peu votre micro, mon ami, parce que sinon, j'ai bien peur qu'on ne vous... Puis cette soirée de Stevie Wonder.
Bonjour. Une soirée extraordinaire.
C'est vrai, à ce
point-là?
C'était
vraiment formidable. Au-delà de mes attentes, plus de 3h30 de musique, 22 musiciens sur scène.
3h30?
Oui, l'intégrale de Songs of the Key of Life, un album qui est sorti en 1975, qui est un classique, évidemment, du genre, de l'étiquette Motown.
Okay.
Alors, il le fait en intégralité avec ses musiciens, avec beaucoup d'improvisation. C'est assez coquin, M. Wonder.
Ouais.
Il s'amuse beaucoup, il improvise beaucoup. C'est évidemment un grand musicien, un grand chanteur.
Mais oui.
Très, très bon moment.
Ça vous a rajeuni?
Oui et non, parce qu'il se modernise quelque part. Il y a des instruments, des nouveaux instruments. Il n'hésite pas à sortir non plus du côté des interprétations. C'est vraiment un très bon moment. Ça valait le coup.
Qu'est-ce qu'on nous dit ici dans la critique, par exemple, de Alain de Repentigny? Il nous dit qu'il n'est pas le premier, sûrement pas le dernier, à reprendre intégralement un de ses albums. Hier soir au Centre Bell. Ah, vous étiez parmi les 10 290 spectateurs. Qui ont envie de constater, s'ils ne le savaient pas, que le Stevie Wonder de 1976 avait du génie. Il dit que le public était survolté. Oui. À peine il venait de chanter le refrain de Sir Duke que Wonder et ses musiciens se lançaient dans la funky I Wish.
Oui, il a fait un rappel aussi, Superstition, évidemment, son grand succès.
Ah ben oui. Ça faisait comment ça, Superstition?
Oh là!
Non, alors je veux bien parler dans votre micro, même ça, ils m'ont fait de là me faire chanter. Il faisait fi de l'heure tardive, Wonder, qui s'est lancé dans une autre excursion improvisée lors du territoire de son album double. Il a un peu triché, en modifiant l'ordre des chansons de son deuxième disque, mais qui osera lui reprocher d'avoir voulu boucler ce retour dans un passé toujours aussi vibrant avec les irrésistibles As et Another Star. Sûrement pas l'immense majorité de spectateurs qui, au moment d'écrire ces lignes, chantent encore avec lui après tout près de 3 heures de musique. C'est vrai que ça chantait beaucoup?
Beaucoup. Ça a dansé beaucoup. Ça a chanté beaucoup. Les gens connaissent les chansons par cœur, évidemment. Il y a tellement de classiques sur cet album double.
Ah oui. Je ne sais pas si là, on va peut-être entendre un petit extrait, rien que pour se faire du bien aux oreilles. Je ne sais pas si ça vient de cet album double-là. Ah bah oui! Ah bah ça, c'est Superstition.
Ça s'en rappelle.
Yeah! Merci beaucoup Jean-Richard Lefebvre, merci.
Plaisir, bonne journée.
Difficile de rester assise devant mon micro. Même moi, je vous assure que là, j'aurais envie de me lever pour en danser un petit coup à seulement 11h30 du matin. Alors, on va se calmer. Il y a d'autres actualités culturelles. Ben, un petit peu, ça, ce que j'ai sous les yeux, c'est moins réjouissant que le spectacle de Stevie Wonder, mais ça fait partie de la réalité. On parle encore et toujours de ces compressions dans le monde de l'éducation. Moralité, eh bien, moins de théâtre pour les élèves, écrit Isabelle Porter dans Le Devoir. Les coupes en éducation et la mobilisation syndicale entraînent une baisse notable des réservations de groupes scolaires dans les théâtres, jeunes publics. Habituellement, à partir de la fin août, le téléphone sonne beaucoup, mais là, c'est beaucoup moins, résume le directeur de l'arrière-scène de Belœil, Stéphane Villeneuve. Les producteurs et les diffuseurs sont inquiets. Avec la Maison Théâtre à Montréal et le Théâtre Jeunesse Les Gros Becs à Québec, l'arrière-scène est l'un des plus importants diffuseurs spécialisés en théâtre jeunesse au Québec. Au cours de l'année, il doit présenter pas moins de quand même 11 pièces de théâtre destinées au jeune public. Et là, il s'avère qu'avec les coupures, eh bien, malheureusement, les enfants, on les verra beaucoup moins dans ces salles de théâtre-là. Je suis dans Le Devoir, dans les pages culturelles, et pourtant, oui, je vais vous parler de Pierre Foglia, qui a écrit si longtemps dans la presse, mais c'est parce que Odile Tremblay a lu ce livre qui vient de sortir tout chaud, cette biographie non autorisée, je dois dire, de Pierre Foglia. Mais enfin bon, non autorisée, mais il y a un petit peu de flou là-dedans. C'est d'ailleurs ce qu'elle va nous dire. Odile Tremblay. Odile Tremblay qui dit qu'il y a quelque chose de nébuleux qui entoure le départ précipité de Foglia du journal La Presse, qui hébergea sa plume durant plus de 35 ans. Je suis d'accord avec elle, ça s'est fait vraiment du jour au lendemain. On n'a jamais été mis au courant et quel dommage. Et c'est un même flou autour de cette bio qui s'appelle Foglia l'insolent de Marc-François Bernier qui a été publiée chez Gallimard. Non autorisé, oui, on veut bien, dit Odile Tremblay, mais le chroniqueur n'a-t-il pas accordé à l'auteur une brève entrevue ? La presse autorisa la publication des chroniques citées sans son aval ? Vraiment ? Demande Madame Tremblay. Rendu là, on laisse tomber l'enquête pour mieux s'égarer dans la nuée de ses questionnements, les charmes du brouillard. Pas sûr qu'il serait d'accord avec celle-là, point de suspension. L'ancien typographe n'aura pas fricoté à antenne libre dans la version toute virtuelle de son journal. À l'amoureux de l'encre et du papier, le cadre d'immatérialité prochaine déplairait sans doute et on aime à le croire. On se souvient qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il avait traité Michel Richard de lasagne, de camion de pompier et d'autres noms d'oiseaux avant de s'excuser aux lasagnes, camion de pompier, etc. Oui, ah, ah, bon. Mais personne n'aurait eu envie à ce moment-là, nous rappelle Odile Tremblay, d'être dans les culottes de Michel Richard parce que, évidemment, Dieu sait si l'ami Foglia pouvait être très, très insolent et très incisif. On l'estimait assez fort quand même, parce qu'on l'admirait, monsieur Foglia, malgré tout. On l'estimait être assez fort pour ne pas hurler avec la meute, mais c'est quelqu'un qui nous effrayait. Il pouvait être si cinglant parfois, comme un chat à neuf queues. Être toujours d'accord avec lui, mais pourquoi être toujours d'accord avec lui ? On n'a pas besoin d'approuver le point de vue d'un chroniqueur. Encore heureux quand l'ego ne lui enlève pas la passion d'observer, quand l'air du temps ne lui a pas anesthésié la poire, quand ses arguments nous poussent à aiguiser les nôtres. La presse a fait un plat avec ses chroniqueurs lundi pour évoquer son style à l'occasion du lancement du livre. force éloge justifiée, certes, du journaliste québécois le plus marquant des 50 dernières années. C'est écrit en incipit du quatrième de couverture de la bio, mais nous dit Odile Tremblay aux vapeurs d'encens et d'embaumement. Disparu vraiment, Foglia. Et s'il allait rebondir comme ces matous qui surgissent derrière la grange après avoir couraillé on ne sait où. Alors, sous cette hideuse couverture mal intentionnée, c'est vrai que c'est vraiment pas très réussi au niveau de la couverture du bouquin, Foglia découpé en tranches, en autant de chapitres, comme un saucisson italien. L'immigrant, le moraliste, le styliste, l'indépendantiste, le cycliste, le matou, pire, l'interactionniste, etc. Marc-François Bernier semble avoir vraiment lu les 4300 chroniques que Foglia a pondues entre 1978 et 2015. Un peu scolaire tout de même l'ouvrage, dit Madame Tremblay, et un style formaté pour évoquer un homme qui en avait tant du style. Alors, comme il se doit, le vrai Foglia pudique s'est échappé du livre, mais il aurait glissé entre les doigts du biographe après 1000 entrevues. Sans ce berceau français de souche italienne, eût-il préservé, M. Foglia, la distance qui l'aida à disséquer sa société élue. Les voyages ne nuisent pas non plus à la compréhension du monde, surtout par ses détails infinis à nous offerts. Le livre rappelle tout ça et l'influence de Louis-Ferdinand Céline, si haut revendiquée. Encore fallait-il pouvoir la harnacher, l'écriture de l'auteur du voyage au bout de la nuit, déguisée en langue parlée pour couvrir ses ressorts littéraires, y greffer les fureurs poétiques de Genet et Dubkowski, puis s'en dégager en trouvant sa voix au bout. Il aimait assez la littérature pour refuser de lui faire honte en bâclant une phrase dans le trou d'un journal destiné au panier. De cela, pas besoin d'un livre pour lui en savoir gré. On comprendra qu'elle n'est pas vraiment convaincue, finalement, si c'est une bonne ou une mauvaise chose d'avoir sorti ce bouquin. Ce bouquin que j'ai hâte de lire. Et vous? Nous sommes encore dans le domaine culturel avec notamment Monica Bellucci qui a célébré son anniversaire en assistant à la première montréalaise de Ville-Marie. Et aux yeux de l'actrice, le rôle très riche que lui a offert le cinéaste québécois Guy Edouin ne pouvait constituer un plus beau cadeau. Ça a été, dit-elle, comme un cadeau d'anniversaire. Monica Bellucci qui a aussi vanté les mérites de, voyons, Pascal Bussière. Une autre comédienne dont il est question ici, mais plus près de nous, je parle de Laurence Leboeuf. Dans la série Marche à l'ombre, on se demande si elle permettra à Super Écran de devenir le HBO québécois, comme c'était son souhait. Après deux comédies, Patrice Lemieux 24/7 et Madame Lebrun, la première série dramatique originale de la chaîne payante, qui sera diffusée à compter du 12 octobre à 21h à Super Écran 4, décrit l'univers de quatre agents de libération conditionnelle d'une maison de transition. Laurence Leboeuf, qui joue l'un d'eux, apparemment y crève l'écran. Même qu'elle constitue, nous dit Richard Terrien, dans Le Soleil et dans la presse, elle constitue l'un des principaux atouts de la série, fabuleuse dans le personnage aussi fascinant que complexe de Rachel Marchand, une écorchée vive qui s'enfonce dans une relation très charnelle avec un policier impulsif, joué par Jean-Sébastien Courchesne. Au début, ses comportements à peine violents l'excitent, la motivent même à rester, et plus tard, ils deviendront intolérable, envahissant. Il semblerait que dès le premier épisode, elle crève l'écran littéralement. Laurence Leboeuf, je vous rappelle que si vous avez Super Écran 4, je ne savais même pas qu'il y en avait trois autres, je pensais qu'il n'y en avait qu'un, ce sera à compter du 12 octobre à 21h. Et puis, qui dit l'automne, dit le mois de novembre. Octobre, novembre, dit aussi les coups de cœur francophones. D'ailleurs, c'est au mois de novembre et on nous a ça y est, on nous a fait part lors de la conférence de presse des têtes d'affiche que nous retrouverons là, à ces coups de cœur francophones. D'ailleurs, Daniel Lemay signe son papier qui s'appelle « La grosse affiche ». Des rentrées montréalaises, dont celle de Pierre Flynn, qui n'est pas rentré en ville depuis 15 ans, avec un nouveau CD, ça s'entend. Des lancements de disques, il va y en avoir 7, avec entre autres cet intrigant « Touche-moi pas là » des Hôtesses d'Hilaire reposant quintette de Moncton, des supplémentaires déjà annoncés, des primeurs et une liste d'émergents impossibles à apprendre par cœur, à part certains noms un petit peu plus accrocheurs, comme Cou Coupé, les héros du dimanche, Utraptérodactyle, du nom d'un reptile volant du Jurassique. Bref, en chiffres, le 29e coup de cœur francophone propose en 11 jours de festival, du 5 au 15 novembre, les prestations de quelques 85 artistes répartis sur 12 scènes montréalaises. En un temps où l'industrie se plaint que le disque se meurt et que les salles ne se vendent pas, Coup de cœur francophone arrive avec plus de 100 spectacles. Adamus, Moffat, Arthur, c'est Bernard Adamus qui vient de lancer Sorel Soviet So What, qui rentre au Club Soda en ouverture de ce coup de cœur francophone le jeudi 5 novembre. Je peux vous le dire, c'est complet. Il sera suivi d'Ariane Moffat, première fois à coup de cœur, et de Salomé Leclerc, tandis que Marie-Pierre Arthur se produira à la Tulipe le vendredi 6. Sinon, des noms que je peux vous citer comme ça, Mario Peluso, Safia Nolin, dont il avait été question un vendredi ici avec mes camarades, oui, Jennifer Vignery et Charles Roy. Les Hôtesses d'Hilaire, ça je ne connais pas du tout. Vous connaissez, vous, ça un petit peu, Christiane?
Un petit peu.
Vous qui connaissez beaucoup mieux que moi en ce moment ce qui sort, ce qui fait, ce qui se dit, ce qui se chante. Fred Pellerin sera aussi de la partie. Steph Paquette, chanteur de la survie francophone au pays Canada. Salomé Leclerc, je vous l'ai déjà dit. Et Patrice Michaud. Et par ailleurs, de l'espace francophone européen, nous viendrons les Français Dimoné, Barcella et Gaël Faure, qu'on a découvert au Francofolie de 2014. Des Belges aussi. Antoine Chance et Lia qui complètent l'affiche de ce 29e coup de cœur francophone, un bateau qui continue de faire fi des vents contraires. Peut-être une bonne nouvelle, je ne sais pas, mais qui m'a surprise ce matin, le vinyle poursuit sa progression. Vous savez, quand on parle de retour vintage, tout ça, ah oui. Bien, c'est vrai aussi avec le vinyle. Figurez-vous que la popularité du vinyle, bien que marginale, ne démord pas. Pour la première fois, Christiane, pour la première moitié de 2015, les revenus des ventes de vinyle ont connu une augmentation supérieure à ceux des sites d'écoute en continu aux États-Unis. C'est incroyable. Ça veut dire qu'on va revendre des tables tournantes et les aiguilles et
tout
ça.
Oui, les gens en achètent. Mais l'avantage, c'est en général, quand on achète un vinyle qui sort aujourd'hui, ça vient avec une petite carte de téléchargement pour aussi avoir les fichiers pour votre téléphone ou votre lecteur MP3.
OK. Donc, c'est pas juste. Mais moi,
Oui,
c'est bien ça. C'est avec moi, je sais pas vous, mais j'ai encore une grosse pile de disques vinyles.
J'ai des disques, mais j'ai plus de table tournante.
Moi non plus, mais à chaque fois que je remets la main dessus, finalement, je m'en rachète une. Puis là, je me tape genre une fin de semaine où j'écoute absolument tout ce que j'ai. Et j'ai encore mes CD. J'arrive pas à m'en débarrasser. Non, ça vraiment. Alors voilà, là-dessus, je vous laisse, mes amis, non sans vous souhaiter une excellente journée à l'écoute de Canal M. Encore une fois, parlez-en autour de vous, dites que nous existons, on travaille fort pour ça. Merci beaucoup Rémi Hermoso et bonjour à Christiane Campagna qui va vous animer le bulletin du handicap. Bonne journée tout le monde, à demain. 9.
Bonjour, ici Pascal Maupetit. Comme tout le monde, j'écoute Canal M, la radio de Vues et Voix.
Canal M, pour voir autrement.